Homélie du 32e dimanche du temps ordinaire. Chers frères et sœurs, en ce dimanche 6 novembre, nous sommes rassemblés et c'est à Lourdes que je suis avec mes confrères évêques pour vous de transmettre cette homélie, cette méditation de la parole de Dieu. Oui, l'évangile de Saint-Luc que nous venons d'entendre nous voit le Seigneur répondre aux problèmes posés par les Sadducéens. Pour eux, c'est un cas d'école. Une école de théologie, il les interroge le Seigneur au sujet d'une femme qui a eu sept maris, et transposant ce qui se passe dans notre vie terrestre, il lui demande de qui elle sera l'époux. Et le Seigneur répond à cela, il n'évite pas la question, il lui répond. Et d'ailleurs, notons qu'au temps du Christ, la foi en la résurrection est vraiment peu répandue. Et l'erreur des Sadducéens, justement, c'est de chercher, en quelque sorte, des articles de foi dans des raisonnements humains. Ils cherchent à utiliser l'Écriture. Ils ne se mettent pas à l'école de l'Écriture. Ils ne cherchent pas à scruter la parole de Dieu. Ils parlent de la vie de l'au-delà comme si c'était la pure continuation, simple continuation de la vie ici-bas. Et la réponse de Jésus nous montre que la vie qui nous attend, c'est une rupture complète entre notre vie actuelle et la vie des ressuscités. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que nous serons comme des anges. Nous ne serons pas des anges, mais comme des anges. Et il dit que par conséquent, nous n'aurons pas besoin de nous marier. Les Sadducéens envisageaient le mariage, effectivement, comme un moyen de reproduction, pour avoir des enfants. Et le Seigneur vient leur rappeler cette vérité que le mariage entre un homme et une femme est une affaire d'amour. Et avant tout, et que par conséquent, il n'y a pas besoin de se marier dans la vie future, puisque cet amour, nous le vivrons comme des frères et sœurs avec notre Seigneur. Et ce thème de la résurrection, ce thème de la vie éternelle, nous le trouvons également présent dans la première lecture, dans cette belle lecture du livre des Maccabées, l'affirmation très claire de la foi en la résurrection, ces frères qui sont torturés et qui répondent à leur bourreau, que eux ils ressusciteront et que lui ne ressuscitera pas, justement. C'est la première affirmation de cette foi en la résurrection. Et alors que jusque-là, l'intérêt se concentrait surtout en Israël, pour Israël, sur le lien vécu entre le peuple et l'Alliance. Est-ce qu'on était fidèle, oui ou non, à l'Alliance scellée par Moïse sur le mont Sinaï? Et là, le prophète Isaïe aussi, et le prophète Ézéchiel, rappelez-vous dans cette récit des ossements desséchés, eh bien, au moment de l'exil à Babylone, nous parle de la résurrection d'un peuple, non pas d'une personne, mais d'un peuple. Donc, dans ce livre des martyrs d'Israël, nous franchissons une étape plus avancée de la foi d'Israël. Nous l'avons déjà vu au cours des semaines passées, nous apercevons que la foi, notre foi, grandit au fil des années. La foi d'un peuple grandit au fil des siècles, il en fut de même pour Israël. Mais la résurrection est envisagée, dans ce livre des martyrs d'Israël, est envisagée pour les justes uniquement. Il faudra attendre des siècles d'éducation patiente de Dieu pour découvrir que la résurrection est offerte à tous. Et alors, nous comprenons pourquoi. Pourquoi nous sommes invités à vivre, à croire en cette résurrection? Parce qu'elle est la source de notre espérance. Elle est la source de cette espérance dont saint Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens, nous parle que la parole de Dieu poursuive sa course. Nous avons, dans cette lettre aux Thessaloniciens, une véritable prière universelle. Et saint Paul le dit, pourquoi? Pour que la parole de Dieu poursuive sa course. C'est une lettre éminemment missionnaire. Autrement dit, et saint Paul est influencé, bien sûr, par ce monde grec, de son époque. Les Grecs sont des amateurs des jeux du cirque. Et c'est souvent que l'apôtre fait référence à la course. L'apôtre est le porte-parole, en quelque sorte. Il nous dit dans cette lettre, il est le seul témoin. Ce n'est pas lui qui compte, ce n'est pas l'apôtre qui compte, ce n'est pas nous, chers frères et sœurs, qui comptons. C'est cette parole de Dieu que nous annonçons et qui doit poursuivre sa course, quoi qu'il en soit de nos misères, quoi qu'il en soit de nos scandales, quoi qu'il en soit de nos péchés, la parole de Dieu doit poursuivre sa course, parce que c'est elle qui nous fait connaître le Christ, qui lui est notre Sauveur, qui lui seul peut nous donner sa miséricorde. Et Paul, en pleine Il y a pleine confiance dans cette communauté des Thessaloniciens, où il a passé peu de temps. Il a passé peut-être 3 semaines dans cette communauté des Thessaloniciens. Mais il les encourage et ils ont besoin du réconfort du Seigneur. Il leur dit, laissez-vous réconforter par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul a confiance en ces Thessaloniciens comme il a eu confiance en Timothée. Et il leur dit la même chose, il leur fait confiance. Et c'est cette joyeuse espérance, c'est ce réconfort et, qui est finalement une affaire de mémoire. Paul rappelle que, en quelque sorte, l'espérance, eh bien, c'est la foi, c'est la mémoire qui est conjuguée au futur. Voilà ce que c'est que l'espérance. Et si nous regardons notre vie personnelle, chers frères et sœurs, notre vie de baptisé, nous pouvons découvrir des joies intenses, des temps de grâce intenses, des grâces du Seigneur qui nous ont été faites, eh bien c'est ça, quelles que soient les épreuves d'aujourd'hui pour nous, et quelles que soient les épreuves d'aujourd'hui pour notre Église, c'est cela, la base de notre espérance. C'est notre mémoire de fidèle, de baptisé, de chrétien. C'est la foi que nous avons reçue de nos parents, de nos éducateurs et que nous vivons. C'est cela qui est notre espérance pour demain. Voilà, en quelque sorte, chers frères et sœurs. Et c'est fort de cette espérance que nous pouvons goûter le psaume que nous avons chanté. « À l'ombre de tes ailes, cache-moi. » Oui, celui qui parle, c'est une personne qui est persécutée. C'est un innocent. Et où va-t-il ? Il va dans le temple. Il fait allusion aux ailes des chérubins qui sont au centre du temple, à l'autel où seul le grand prêtre a accès le jour de la fête du grand pardon, le jour de la fête de Yom Kippour, le saint des saints. Et là, cette personne-là, eh bien, remet sa cause, remet sa vie entre les mains de Dieu. Celui qui parle dans le temple, c'est vraiment, il est certain de son innocence et il sait que Dieu le gardera comme la prunelle de son œil. Il sait que Dieu seul est source de miséricorde, que Dieu seul est la justice. Et il peut comme ça se réconforter parce qu'il sait par expérience que la justice des hommes n'existe pas. Rendons grâce à Dieu Seigneur, rendons grâce pour cette belle parole de Dieu en ce jour. Et prions pour notre Église, prions pour toutes ces victimes dont la presse nous parle à juste titre. Prions pour elles. Prions aussi pour ceux qui sont les auteurs de ces actes répréhensibles. Et continuons la course, la marche de l'Évangile, parce que c'est ça qui est important pour nous. C'est l'essentiel. Ne renonçons pas. Ne renonçons pas. Poursuivons la course pour l'annonce de l'Évangile. Bon dimanche.